plusieurs vont désobéir et vont laisser. D'un côté, on nous ordonne de nous aimer les uns les autres. L'autre côté, nous sommes conscients que plusieurs vont désobéir d'aimer. Merci. Thank you. Il dit, si vous gardez, on lit des fois les 10 commandements, c'est pas seulement les 10 commandements. Si vous gardez mes commandements, tous les commandements que Jésus-Christ a donnés, nous devons les connaître, nous devons être connaissants de ces commandements, plus que les 10. Si vous demeurez dans mon amour, alors c'est évident que l'œuvre du diable, c'est de nous faire désobéir au commandement de Jésus-Christ. Si on désobéit à Dieu et nous haïons les uns les autres, la température refroidit, nous allons nous trahir les uns les autres. Et le diable nous tue. Si vous gardez mes commandements, c'est pour ça si important chaque année de parcourir la Pâque. La cérémonie de la Pâque, de comprendre la mort de Jésus-Christ, pour comprendre l'amour de Jésus-Christ, comment Dieu a aimé Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il nous aime, et c'est comme ça qu'il nous ordonne de nous aimer les uns les autres. Si nous gardons mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Alors, même s'il refroidit beaucoup, nous allons continuer à bien fonctionner. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit, c'est des connaissances, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Alors il risque que la joie du Seigneur soit perdue. Mais il nous dit à l'avance que la température va baisser. Obéir mes commandements pour que ma joie puisse rester en vous. Et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Alors il faut obéir. Au cas où on soit confus, il dit clairement, voici mon commandement. C'est ici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, quand nous observons la Pâque, comment Jésus a aimé. Quand il était torturé et tué, il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il nous a aimés. Et de cette même façon, c'est comme ça que nous devons aimer. Alors, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ne faites pas de trahison entre vous. Prenez la Pâque à chaque année et apprenez la mort du Christ, mon loyauté, mon amour. Et ensuite, donnez votre vie pour votre ami. C'est de la vraie amour. Aucune trahison. Aimez-vous les uns aussi tant que s'il faut mourir pour son ami ou son frère, faites de même. Soyez loyal. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimez. Il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il faut comprendre cette réalité que plusieurs vont trahir les uns les autres et que ce commandement, qu'il faut jamais faire ça. Il faut être prêt à donner nos vies les uns pour les autres. Vous voyez le dilemme ici. Christ dit, ce ne sera pas facile, mais faites comme je vous commande et votre joie sera parfaite. Ce que j'aimerais faire pour le restant du sermon aujourd'hui, ce dernier jour du pain sans levain, c'est de vous encourager, de nous encourager, de boucher les trous pour que le fonctionnement de l'Église soit parfait. Pour, au lieu d'être des individus, mais pensant d'une façon de la congrégation, ayons l'amour les uns pour les autres. Ayons la perspective d'une congrégation. Nous voulons que tout le monde dans la congrégation puisse rester fidèle. Quelle tragédie! Certains d'entre nous sont fidèles et d'autres pas. C'est une tragédie si nous perdons des personnes. Quand Jésus-Christ reviendra, tout le monde va le joindre. C'est là l'objectif. Et c'est l'amour du Christ que nous avons. La Bible dit, personne n'a jamais haï son propre corps. Donc, Christ est marié à l'Église et il aime son corps. Si nous sommes dans le corps du Christ et nous nous haïssons, ce n'est pas bien. si nous sommes dans le corps du Christ et nous avons des choses contre les autres, c'est contre ce que Jésus-Christ veut. Personne n'a haï son propre corps. Christ aime son corps et nous sommes son corps. Il nous aime. Et si nous avons l'Esprit du Christ en nous, nous nous aimons les uns les autres. Donc nous nous devons penser à la congrégation. Je voudrais nous encourager à enlever de quoi? Pour étudier les épîtres de Jésus-Christ. Les épîtres. Les apôtres ont écrit les épîtres, ces lettres personnelles à l'Église. Mais Jésus-Christ lui-même a écrit les épîtres à l'Église. Les épîtres aux sept congrégations, en chapitre 2 et 3 d'Apocalypse, ce sont des lettres à l'Église. Ce que je voudrais faire, non pas seulement d'aller lire ces épîtres d'une façon verticale, mais aussi de les réunir et de savoir les lire d'une façon horizontale. Mais la clé de la compréhension de ces épîtres, c'est de les lire horizontalement. Et je vais vous dire ce que je veux dire en premier. Regardez ces deux tableaux. Et si ce tableau à gauche, si nous disons que... L'interprète ne voit pas. Et on essaie d'estimer la longueur de la table. La table 1 est 1 par 3, 1 par 4. Et si c'est 1 par 3, si oui, quelle dimension donnerez-vous à la table à droite, la table carrée? Approximativement. J'attends 2 par 2. 2 par 2. 2 par 3, peut-être? 2 par 2. Ok, entre 2 par 2 et 2 par 3. Alors, la table 1 par 3, 2 par 2. 2 par 2. C'est une expérience par un homme nommé Richard Thaler, qui est un économiste de comportement. L'étudiant d'un autre économiste de comportement, Daniel Cohen. Les deux ont gagné des prix Nobel. Daniel Cohen était un juif qui a survécu l'Allemagne nazie. Il était un jeune garçon dans ce temps-là. Et il est confronté par un officier SS nazi qui l'a appelé. Et il a couru, étant obéissant. Et au lieu d'être puni, l'officier l'a ramassé, il lui a donné une caresse, il l'a mis à terre, il l'a tapé sur l'épaule et il a dit, tu me rappelles mon fils, sois un bon garçon, vas-y. Ne sachant pas qu'il était un juif, de ce moment-là, il était fasciné par le jugement humain. Et spécifiquement par la faiblesse, comment on peut mal juger. Il a enseigné Thaler et ils ont continué à étudier le comportement des humains, la façon de prendre des décisions. Donc, ce que Richard Thaler a fait ici, il a pris la table à gauche, il n'a rien fait, excepté le tourner sur lui-même. Et il lui a donné un autre contexte. Les deux tables sont exactement pareilles en dimension. Et j'ai étudié, j'ai mesuré 4 fois. Et je ne crois pas quand même. Mais chaque fois que je le mesure, c'est texte, c'est vrai. Mais ça ne ressemble pas. Et il démontre notre faiblesse en évaluation et en quand nous nous jugeons nous-mêmes, nous avons tendance... Nous jugeons nos intentions, mais quand nous jugeons les autres, nous les jugeons sur leurs actions. Nous voyons le haut du iceberg et nous ne voyons pas leurs intentions. Quand on se juge soi-même, on le met en contexte. Nous regardons un frère ou une sœur, elle n'est pas chrétienne, mais moi je suis chrétien. Mais Christ est le juge. Alors, pour nous aider, parce que nous avons des faiblesses sévères, importantes, cette habileté de juger, spécifiquement dans nos propres actions, Christ nous donne ces 7 lettres, ces lettres d'amour aux églises. Ça nous coupe la fragilité et comprendre le jugement de Jésus-Christ et comment il nous juge, pas seulement individuellement, mais comme une congrégation. Donc, ces lettres au lieu de les lire verticalement, une lettre à la fois, nous devons mettre les lettres côte à côte et les lire horizontalement. Alors, je l'ai fait pour vous. J'ai pris chacune des lettres, je les ai mis d'une façon verticale et côte à côte. Alors les lettres, chaque congrégation, de qui là vient la lettre, à qui ça s'adresse, quelle est la récompense des saints offerte à chaque congrégation, qu'est-ce que Dieu haït, qu'est-ce que Dieu haït. Pour comprendre, il faut le mettre ensemble pour comprendre. Et qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il apprécie. Et en lisant horizontalement, qu'il y a des vérités qui nous sautent aux yeux, qu'on n'a pas vues en les lisant verticalement. Donc, ce donné est en arrière. Je vous encourage à prendre une feuille en arrière et d'analyser. Jim est très bon avec ses handouts. Je vais le faire comme Jim. Quand nous regardons ces lettres d'une façon horizontale, la Bible dit, lisons ensemble, rapportons-nous à Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 2. Le verset 7, remarquez. Il dit ici au chapitre 2, c'est Christ qui parle. Donc on doit le prendre au sérieux parce qu'il faut obéir à ses commandements. Verset 7, Apocalypse 2, verset 7. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à son église préférée, et à son église préférée, et ignorer ce que l'Esprit dit aux autres églises. C'est pas important s'il est dans la bonne église. Est-ce que je me trompe de Bible? Je pense. Oui. Oh, je me trompe de Bible. Il dit ici que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pas seulement une église. Tous les frères doivent lire toutes les lettres parce que l'Esprit a toutes les églises par les lettres. Qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises plurielles. Au verset 11. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 17. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 29. La même chose. Chapitre 3, verset 6. La même chose. Verset 13, la même chose. Verset 22, celui qui a une oreille, les oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, pluriel. Est-ce qu'on peut refuter que chaque congrégation doit lire toutes les lettres? Est-ce que quelqu'un ne serait pas d'accord avec ça? C'est assez clair, c'est répété. Nous devons regarder chaque lettre. Pas seulement la lettre à une église, mais nous devons les lire côte à côte. Qu'est-ce qu'il y a toutes les églises dans cette catégorie? Toutes les églises dans cette catégorie. Pour mieux comprendre, il y a trois indices. Le premier indice, c'est Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Il avait une vision de Jésus-Christ glorifié. Dans les lettres, si vous avez seulement lu votre lettre, vous n'allez pas avoir cette mission. Vous allez dire, oh, Christ a les yeux comme une flamme de feu. Ou vous diriez, oh, il sort de sa bouche une épée à deux tranchants. Vous devez mettre toutes les lettres ensemble pour avoir la vision que Jean a eue du Christ glorifié. C'est un indice qu'on doit lire horizontalement. Le deuxième indice, ce sont les récompenses. Si nous lisons les récompenses, est-ce que ça a du sens? Pensez-y. Il y a sept congrégations. Est-ce que ça a du bon sens que dans l'état glorifié, vous avez certains membres qui sont sur le trône avec Christ, mais pas tous. Certains membres ont un nouveau nom, mais pas tous. Certains membres, la deuxième membre n'a pas de pouvoir sur eux, mais elle a du pouvoir sur les autres. Ou est-ce que c'est plus logique de dire de mettre toutes les récompenses ensemble pour avoir une vision de ce que c'est les récompenses pour les saints? C'est le deuxième indice. Le troisième indice, c'est ce que nous venons de lire. Le commandement, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le troisième indice. Avec ces trois indices, c'est clair que nous devons les mettre ensemble et les comprendre ensemble. Une des raisons pour laquelle que nous ne lisons pas les lettres horizontalement, c'est parce que nous croyons dans les airs de l'Église, que les Églises représentent des airs. Ceux qui viennent de l'Église universelle de Dieu, ou Philadelphie, ou l'Église restaurée de l'Église, et croyaient qu'ils étaient l'air Philadelphie, donc ils lisaient seulement cette lettre, et les autres lettres sont pour d'autres personnes. Parce que nous sommes dans l'air Philadelphie, nous sommes protégés de la grande tribulation. La Bible dit non, pas du tout. C'est une interprétation qui est fausse. Je veux passer un moment pour effacer. Apocalypse chapitre 3, verset 3, verset. On lit cette lettre. Je serai protégé, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le voilà. Alors il y a une grande tribulation sur toute la terre et nous serons protégés parce que nous sommes de l'ère Philadelphie. La Bible dit non. La Bible ne dit pas, il dit, il va garder les saints de l'heure de la tribulation. Et au cas où nous sommes confus, de quelle heure c'est, il explique. L'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc c'est un monde global. C'est une heure spécifique dans laquelle on se... c'est une tribulation qui ira sur tout le monde. La grande tribulation n'est pas l'heure, la tribulation sur tout le monde entier. Pendant la tribulation, le monde sera en fête. Si vous acceptez la marque de la bête, vous allez être bien correct. Si vous résistez la marque de la bête, c'est là où vous allez souffrir dans la grande tribulation. Donc il dit ici, c'est sur ceux qui vont demeurer les habitants de la terre. C'est écho d'une prophétie qui se trouve en Ésaïe. Ésaïe 24, oui, verset. quick. Le verset 6. Ésaïe dit, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Donc Ésaïe pouvait voir à un moment dans l'avenir où il y aurait une malédiction sur la terre entière. Et ses habitants portant la peine de leur crime. Ceux qui vivent sur la terre deviennent Donc, les habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Ce sont les saints qui restent sur la terre. Nous courons, nous ne sommes pas établis. Donc, Isaïe a vu, nous retournons à l'Apocalypse. Chapitre 18. Chapitre 6 en premier. Eh oui, nous allons. Chapitre 6, Apocalypse 6, le verset. Remarquez les cris des martyrs. Ce sont les saints qui étaient fidèles jusqu'à la mort. Ils ont été tués. Écoutez leurs cris au verset. Oh. Il n'y a pas de verset d'un cri. Combien est-ce que tu attends que la vengeance sur ceux qui ont été tués? Donc il y a une différence entre les martyrs et ceux qui sont les habitants sur la terre. Les habitants sur la terre sont méchants et les saints disent combien de temps avant que tu juges les habitants de la terre qui sont. Et le chapitre 11, Apocalypse chapitre 11. Et le verset 10, Jean écrit, et à cause d'eux, ceux qui habitent, les habitants de la terre, les méchants, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils sont contents de la mort des deux témoins et ils s'enverront des présents. Donc les justes vont souffrir et sont martyrs. Ceux, les habitants de la terre, ils ont la fête, la grande fête. Néron voulait brûler les chrétiens pour s'amuser. Il les enverrait au lion pour s'amuser. Quand il faisait noir, ils allumaient des chrétiens juste pour créer une lumière pour la ville. Alors les habitants de la terre s'amusent. Et chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, et verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les fondations du monde, sont dans la fièvre de vie de l'agneau et qui a été immolé. Et si quelqu'un des... Bon. Aux habitants de la terre, et chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 verset 8. La bête que tu ne vois pas, elle doit monter de la mime à la perdition, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et elle n'est plus, et qu'elle paraîtra. Tel qu'il y avait un exode en Israël anciennement, il y aurait un autre exode. Et cet exode qui est de l'avenir sera beaucoup plus grande que le premier. Que nous allons oublier l'exode en Israël. Et comme il y avait une Pâque qui précédait cet exode, il y aurait une deuxième Pâque qui va précéder la deuxième plus grande exode. Et l'Église de Philadelphie est promis la protection de l'heure qui viendra sur les habitants de la terre. C'est une allusion à la Pâque. C'était le peuple qui devait être libéré en Égypte était sélectionné par Dieu. Et les malédictions qui viendront sur la terre, sur les habitants de la terre, étaient sélectionnées. Ils ne toucheront pas le peuple de Dieu. Donc l'heure des Philadelphiens qui sont procédés n'est pas l'heure de la grande tribulation, c'est l'heure de la colère de Dieu. Dieu est furieux, est en colère, sa colère est brûlante, et cette colère qui va lâcher sur la terre, sur les habitants de la terre, mais va dépasser les saints, les élus de l'Éternel. Apocalypse chapitre 9 verset il leur dit de ne point, il leur a été commandé de ne point qu'ils aient mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. C'est une allusion à la Pâque. Comme ceux qui avaient le sang sur la porte, Dieu les a dépassés. Ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front, Dieu va les aider. Passover, chapitre, Apocalypse, chapitre 14. Pour parler spécifiquement de quelle heure on parle, sont les saints protégés. Chapitre 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. C'est là où les saints sont protégés. Il ne faut pas confondre la colère du diable avec la colère de Dieu. Les saints doivent faire face à la colère de Satan. Nous devons être fidèles en face de sa colère et ne pas nous trahir les uns les autres. Mais la colère de Dieu, c'est là où nous sommes protégés. L'heure de son jugement, de là nous sommes protégés. Chapitre 18, Apocalypse chapitre 18. Et le verset 17. Jean écrit, et en une seule heure, les méchants avaient une fin jusqu'à cette heure. Et en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Verset 19. Et ils jetaient la poussière sur leur tête et pleuraient, ils disaient entre les deuils, ils criaient, ils disaient, hélas, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont été des navires sur la mer, et une seule heure elle a été détruite. J'espère que j'ai fait la logique pour que l'Église, les promesses à la congrégation de Philadelphie qui devait être protégée leur, n'a rien à faire avec la grande tribulation. Ça a tout à faire avec la colère de Dieu par laquelle nous sommes, dans laquelle nous sommes protégés. Quand nous lisons les lettres d'une façon horizontale, toutes ces promesses aux fidèles sont claires. Pas seulement une congrégation, mais Dieu a dit à Jean, écrit à ces sept congrégations qui sont en Asie, pas dans sa sagesse, ces sept congrégations avec les attributs des sept vont inclure tous les saints du premier siècle jusqu'au retour du Christ. Donc ce qu'il dit aux églises, nous devons le prendre d'une façon de congrégation. En résumé, l'avenir est comme tel. Il y a trois actes dans la pièce. Acte 1, Église, prépare-toi. Et ces lettres visent à préparer l'Église. Préparez-vous pour l'avenir. Dans Acte 2, qui est le sort de la bête et la gloire de la bête, et tout le monde qui court après la bête, qui adore la bête, mais à cause des instructions au sein, dans sa parole, nous n'acceptons pas le sceau de la bête. Et plusieurs d'entre nous vont l'accepter. Soyons fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de la vie. Donc, Dieu nous a aimés en premier et il a démontré son amour en mourant pour nous. Et nous sommes activés par l'amour du Christ pour démontrer ce même amour les uns aux autres en étant prêts à mourir pour lui et mourir les uns pour les autres. Acte 3, c'est le triomphe des saints, la gloire des saints. Ce que Dieu fait dans les premiers cinq chapitres, il peint une vision pour nous des chapitres 20, 21 et 22. Pour que tout ce qui est au milieu, nous le traversons, l'alpha et l'oméga. Ne vous inquiétez pas du milieu. Ne laissez pas les méchants vous décourager. Maintenant, étudions le levain. Que Dieu voudrait qu'on enlève de nos vies. De la congrégation, pas seulement personnellement. Si moi je suis juste, oh, c'est correct. Mais non, nous avons un amour les uns pour les autres et nous devons tous, et nous sommes le gardien de nos frères. Donc Christ dit, quand je mets cette congrégation ensemble, je les ai mis ensemble, des catégories de levain que vous devez surveiller. Catégorie numéro 1. la tolérer des fausses doctrines. Tolérer les fausses doctrines. Quand nous voyons ce que Dieu déteste en regardant les lettres. Regardez Pergamos, chapitre Apocalypse, chapitre 2 et verset 12. À Pergame. À l'église de Pergame. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrivez, voici ce que celui dit qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc, pour une raison ou pour une autre, il veut que cette église sache, connaisse son jugement. Comme j'ai dit plus tôt, s'ils lisent seulement cette lettre, ils n'ont pas la vision globale. Il faut qu'on lise les sept églises pour comprendre et mettre tout ensemble pour avoir la pleine vision. Il dit, je sais où tu demeures, je sais que là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose, j'ai quelque chose contre toi. C'est épeurant. Si Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Créateur, se tourne vers nous et il dit, j'ai quelque chose contre toi, cela devrait nous terrifier. Il dit, dans ces régions, tu te poses à moi, change. Autrement, il va y avoir des problèmes dans l'Église. Mais j'ai quelque chose contre toi. Pourquoi? C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et Matthieu 24, il dit plusieurs faux prophètes vont tromper plusieurs et il parle à l'Église. Nous allons tolérer des faux prophètes. Des fausses doctrines mènent au comportement mal. Le verset 15. Oh là, où est-ce que c'est? 15. Qui enseigne les doctrines des Nicolaitains que j'ai haïs. Oh oui, si. Le plus que nous sommes sophistiqués, le plus que nous sommes tolérants, Jésus-Christ est intolérant pour les fausses doctrines. Il ne tolère pas la fausse doctrine du tout. Cette doctrine des Nicolaites, victoire sur le peuple, c'est une forme d'oppression du peuple. Au lieu de reconnaître que le peuple de Dieu est le pouvoir du Saint-Esprit, il domine le peuple de Dieu. Ça ne devrait pas être ainsi parmi vous. Donc, le Christ est intolérant de cette fausse doctrine. Je haïs. Repends-toi, donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, c'est la parole de Dieu. C'est terrifiant, c'est épeurant. C'est bien, nous sommes des chrétiens confortables. Ceci, nous pouvons nous trouver à être adversaires du Christ et il va venir lutter contre nous avec une épée à deux tranchants si nous n'enlèvons pas les fausses doctrines. Regardez 1 Timothée 4. Un Timothée 4, il écrit à Timothée, il dit, mais l'Esprit dit expressément, verset 1, il n'y a pas de confusion, l'Esprit dit expressément, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de peut-être. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, que dans ces temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et parlons de l'Église. On ne parle pas de CGI, on parle de l'Église. CGI n'est pas l'Église, c'est une administration dans l'Église. L'Église, c'est la collectivité des êtres humains qui possèdent le Saint-Esprit. Ça, c'est l'Église. Pas tout le monde dans CGI est dans l'Église. Et pas tout le monde dans l'Église est dans CGI. l'Église, c'est ceux qui ont l'Esprit Saint de Dieu. Et ils peuvent être dans d'autres Églises de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Christ nous a dit ça. Que l'amour de beaucoup va s'éteindre pour approcher, s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. À des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Donc, la séduction n'est pas dans ta face, c'est pas une confrontation. C'est petit à petit, c'est subtilement, un peu à la fois. Et on est d'accord et tout à coup, on est dans une place où on ne sait pas comment on s'est rendu là. Ça, c'est être séduit. Christ a dit, n'ayez pas de tolérance pour les fausses doctrines. Par Satan, comme il a fait avec Ève, il va le faire d'une façon subtile. Un peu de compromis ici, un peu de compromis là. Et avant de savoir ce qui se passait, on est dans le trou. Alors l'Esprit expressément que ça va arriver dans les derniers temps. Les démons seront laissés autour de la terre et nous n'avons pas la capacité d'opposer. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons Jésus-Christ. Si Adam obéissait à Dieu, ça n'avait pas d'importance que Satan était subtil. Mais nous commençons à converser avec le diable, alors son intelligence a de l'importance. Il peut à ce moment-là nous séduire. Mais quand nous faisons ce que Jésus-Christ nous a dit de faire, il y a plusieurs dans l'Église aujourd'hui, et je ne veux pas dire Sidia, je veux dire l'Église, qui tombe dans ces mouvements, comme les vies noires sont importantes. Plusieurs mouvements qui sont planifiés pour séduire, destinés pour enflammer les émotions d'hostilité, de colère et d'agression. Il y a des émeutes qui ont lieu dans tous les pays et tout le monde a une émeute contre quelque chose. Ce sont des doctrines des démons qui entrent dans les têtes des personnes et causent des confrontations, de la colère et de la haine. Et ça infecte encore l'Église aussi. Mais Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Pardon. Il nous commande, il nous ordonne de nous aimer les uns les autres. Si nous obéissons, ça n'a pas d'importance combien les démons sont séducteurs, combien intelligents est Satan. Si nous obéissons, nous sommes protégés. Ce que je vois, c'est les chrétiens qui se pour des causes sociales, les chrétiens commencent des chicanes, commencent des conflits. Au verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Ce sont des actions que l'Église devrait faire. Nourris dans les paroles de la foi. Nourris dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Pour ceux d'entre nous qui avons un background dans l'Église universelle de Dieu. C'était une Église phénoménale. Ça a changé ma vie complètement. Mais ce n'était pas parfait. Et une des choses qui m'a aidé, et je pense que je ne serais pas venu à Dieu sans ça, combien les doctrines étaient organisées. Je pouvais m'asseoir et étudier ces études bibliques et comprendre ce que la Bible disait. J'avais ces livrets et toutes ces ressources qui m'ont aidé à comprendre les doctrines de la Bible. Mais je pense que en faisant un système de ces doctrines et cette approche académique, j'ai mal compris la signification des doctrines. Donc pour moi, quand j'entends le mot doctrine, je pense à des livrets. Je pense à une doctrine académique. Ce n'est pas comme la Bible traite des doctrines. Doctrine, c'est le comportement. Doctrine, c'est le bon enseignement qui mène au bon comportement. Et c'est pourquoi Christ est intolérant de la fausse doctrine, parce que ça mène à un faux comportement. Bonne doctrine veut dire bon comportement. Et ici, il dit au verset 6, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine et que tu as exactement suivi. Tu dois les rappeler, les bonnes doctrines, tu seras un bon ministre, nourri dans les paroles et de la bonne doctrine que tu as atteint exactement. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Oui, une fausse doctrine mène à, une, à un, mauvais, un mauvais comportement. Car l'exercice corporel est utile, verset 13. Voilà. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, l'exhortation, à l'enseignement, non pas à la connaissance académique. Tu crois dans la Trinité? Vraiment, tu crois dans la Trinité? Tu crois que tu vas au ciel? Oh, tu es mal instruit. Ce n'est pas une bonne doctrine. Mais la raison, nous ne croyons pas à la Trinité, c'est parce que nous comprenons que Dieu se reproduit dans sa famille. Et nous comprenons que Dieu reproduit sa famille et nous sommes nés dans sa famille. Et Dieu, nous allons demeurer avec Dieu en famille. Et nous devons être une nation sainte. C'est pour ça que c'est important de comprendre que nous, c'est pas une Trinité. Pas pour être supérieur dans la connaissance académique, mais que ça change notre comportement. Au verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, et afin que tes progrès soient évidents pour tous, veille sur toi-même et sur ton enseignement. L'enseignement, la doctrine, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc la congrégation, le premier levain à enlever. Et aux catégories de levain que nous devons enlever d'une façon de la congrégation, c'est l'enseignement, les doctrines. Il faut enlever les fausses doctrines qui amènera à un faux comportement. Et c'est la deuxième catégorie que nous devons nous inquiéter comme congrégation. Et c'est la tolérance de problèmes sexuels. C'est si sophistiqué de penser que quand on les journalistes qui rapportent des indiscrétions sexuelles, oh, c'est du beau un peu. Dieu haït des indiscrétions sexuelles. Nous ne devons pas le tolérer. Regardez. La fausse doctrine amène à un faux comportement. La doctrine de Balaam a mené à des doctrines, problèmes sexuels. Le cerveau doit être refait avant de se comporter comme Dieu le veut. Satan attaque à ce que nous croyons. Dans Apocalypse chapitre 2, je crois que Christ souligne l'immoralité sexuelle parce que c'est un des outils de Satan. Satan dit je serai comme Dieu. Ça c'est son but. Il veut être adoré comme Dieu. Nous savons que l'amour entre un amour et une femme et sa femme qui adore Dieu démontre l'union entre Christ et l'Église et son Père. Et toute cette intimité entre Christ et une femme représente entre Dieu et Jésus-Christ. Donc, il attaque dans le jardin d'Éden, c'était une attaque sexuelle. Il a pris ce couple, Adam et Ève, et il les a corrompus. Ils devaient couvrir leur partie secrète. Et ils avaient honte de leur sexualité parce qu'ils étaient corrompus. Toute sexualité en dehors du mariage adore le diable. Et quand on étudie toutes ces religions païennes, toutes ont la sexualité perverse. Et c'est l'opposé d'adorer Dieu. En Apocalypse, oh dear, en Apocalypse, il y a seulement deux femmes. Il y a la mariée de Jésus-Christ et il y a la prostituée de Babylone. Et toute l'humanité est dans un camp ou dans l'autre. Il n'y a pas d'entre-champ. Ou on est dans la mariée du Christ ou on fait partie de la prostituée de Satan. Et la pureté sexuelle ou l'immoralité sexuelle. Apocalypse 2, verset 18. Apocalypse 2, verset 18. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ton constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Fais attention. Verset 18. Tu permets à Jézabel, un serviteur de Ishtar, le postulier de Babylone, tu lui permets, qui se dit prophétesse, qui enseigne faussement, qui va tromper beaucoup de, pour enseigner une doctrine, et pour séduire, c'est la fausse, le comportement faux. Mes serviteurs ne commettent pas rien, c'est de l'immoralité, c'est une des problèmes sexuels. Et je lui ai donné l'espace pour se repentir de ses, mais elle a refusé. Je vais l'envoyer dans un lit. Voici, je vais la faire jeter sur un lit. Donc c'est une lettre à l'église qui se font ça avec Jézabel. Je vais la mettre dans un lit et envoyer une grande tribulation, à ceux qui commettent adultère avec elle. Christ veut que l'Église réussisse. Il dit, si tu as ces fissures dans ta congrégation, quand la tribulation se présente, vous n'allez pas survivre. Ça va exploser. Donc il faut sceller les fissures pour traverser les épreuves qui nous viennent. Donc nous voyons aujourd'hui que la sexualité immoral, que Satan a la victoire. Quand Satan a la victoire, que Satan haït la pureté sexuelle. C'est d'un site web. Écoutez bien. Question.org. Quand j'étais garçon, on voulait trouver la pornographie. On ne pouvait pas le trouver. C'était barré, caché. Maintenant, c'est partout. On ne peut pas regarder un show sans voir de la pornographie. Ce qui était interdit auparavant est maintenant plein. C'est le monde dans lequel nous vivons. Laissez-moi vous lire de ce site web, question.org. C'est l'article s'intitule « Pourquoi l'addiction aux pornographies est un problème ?» Aujourd'hui, la pornographie est une industrie de multibillions de dollars. C'est immense. Beaucoup est gratuit. Mais les gens dépensent des multibillions de dollars et ça se répand un filet pour donner une réaction sexuelle sur demande. Et il est tellement avec un plaisir sensuel présent que la chastité est perçue comme une manifestation comme une maladie mentale. Pour nos jeunes qui ne veulent pas, qui veulent être, si vous n'êtes pas immoral, vous êtes considéré comme malade mental. Écoutez bien, si un grand nombre de chrétiens évangéliques commençaient à employer la cocaïne d'une phase régulière, on ne serait pas surpris s'ils avaient des grands problèmes comme une addiction à la cocaïne. On parle des chrétiens évangéliques. Alors, on ne serait pas surpris. Il dit, mais cependant, quoique la pornographie est aussi une addiction aussi forte, quand on commence à le regarder, le cerveau est poigné par ça. Et c'est aussi pire que la cocaïne. Et on cherche quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Et avant de savoir, on est pris dans un filet. quoique la pornographie, et c'est légal, et c'est disponible d'une façon anonyme. Nous sommes surpris, et même on est fâchés, qu'un grand nombre d'évangéliques sont pris par la pornographie. Dans la communauté évangélique, il y a un grand nombre de personnes qui sont prises par la pornographie. Est-ce que c'est possible que c'est leur problème? Ou dans l'église de Dieu, est-ce que c'est un problème aussi d'avoir ce problème? La pornographie pourvoit une qualité élevée, une fausse image de la vraie sexualité, le plaisir qui fait partie d'une vraie personne. La pornographie trompe son propre cœur par l'illusion et par la fantaisie. C'est l'œuvre du diable. Beaucoup de jeunes personnes ne peuvent pas avoir un rapport avec une vraie personne. Ils sont tellement habitués et détruits d'une façon physiologique qu'une vraie femme ne les intéresse pas. Pour bien des siècles, les chrétiens ont contemplé la prostitution. Les chrétiens ont haï la pornographie depuis des siècles. Dans d'autres, des chrétiens ont haï des religions qui avaient de l'immoralité sexuelle. De nos jours, aujourd'hui, ils négligent le fait que la nouvelle forme d'adoration de la fertilité est devenue dans notre culture, et que la forme moderne est plus subtile et qui nous poigne, celle de Paste. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre les cultes religieuses. C'est une forme d'adoration du diable. Quand c'était une prostituée, maintenant nous le regardons. Nous ne comprenons pas que c'est la même. La pornographie, c'est comme une religion de pornographie. Que la plupart d'entre nous ne le reconnaissons pas, que c'est le. Ceux qui ont l'Internet aux États-Unis, 325 millions de personnes, le Canada, 30, 40 millions. Bon, Amérique du Nord. De ceux qui emploient l'Internet aux États-Unis. 40% visitent des sites web de pornographie au moins une fois par mois. 40%. Oh, oui. Le nombre s'élève à 70% quand l'audience est des hommes de 18 à 34 ans. 70% de ces 325 000 personnes, 40% de ce groupe est pris par la pornographie. Des êtres humains qui ont leur cerveau qui sont maganés par la pornographie. Ouais. L'Internet a été une force pour l'industrie de la pornographie qui pousse les frontières et qui permet un accès facile. Maintenant, l'industrie du téléphone cellulaire le rend encore plus riche et plus proche. Et que l'Apocalypse parle des marchands qui sont riches en horreur. Ils s'en balancent, qu'ils détruisent des vies, des rapports avec des rapports réels. L'industrie pornographique rapporte 10 millions et 20 billions de dollars aux États-Unis seulement. 60 billions au monde. Et c'est plus que tous les sports professionnels, fois plus que Google, Yahoo et reçoivent combinés. C'est un grand problème. Et nous pouvons mettre la tête dans le sable et le négliger, mais c'est un grand problème. C'est partout. Et c'est la victoire de Satan. Et ces démons sont subtils. Un clic et vous êtes pris par ça. Vous avez perdu le contrôle. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens. Comment nous devons réagir à cette attaque de Satan? 1 Corinthiens 5 et le verset pas sur le péché spécifique, mais de comprendre l'instruction de l'apôtre Paul à l'église de penser d'une façon congrégation, non pas individuelle. Et je pense que nous sommes conditionnés à penser d'une façon individuelle, mais il faut repenser ça. 1 Corinthiens 5 et verset 1. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous l'impudicité et une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. Dans l'église, dans la congrégation, il est possible d'avoir un niveau de moralité qui est mieux que le monde. Mais c'est parce que la cible, c'est le Satan. Satan a la cible pour l'Église. Il veut faire avec l'Église. Le monde est déjà captif. Mais il va mettre tout son pouvoir pour attraper l'Église. C'est qu'au point que l'un de vous a la femme, les gentils ont des standards, ses membres, elle a son père. Et il dit, vous êtes trop sophistiqués. Vous tolérez cette chose et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Si vous aviez lu les lettres aux églises auxquelles nous avons accès, vous serez désolé parce que ça va faire un échec dans l'église. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc, que le levain soit levé. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis cet intellect, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. La perspective de Paul était le retour de Jésus-Christ. Ce que je pense, c'est que les Juifs, quand Christ est venu sur la terre, les Juifs, ils l'ont manqué, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que eux, ils cherchaient un Messie conquérant. Et ils ont quand même vu le serviteur souffrant. Et ils n'ont pas compris les prophéties sur le serviteur souffrant qui venait pour les racheter. Et puis ensuite, le roi vainqueur, quand ils ont refusé Jésus-Christ, je me demande si on fait la même erreur. Nous attendons un Christ qui va vaincre. Nous cherchons le serviteur souffrant et nous négligeons le Christ vainquant. Nous sommes tellement habitués au serviteur souffrant. Est venu et il accomplit, mission accomplie. Maintenant, nous attendons un Dieu de la colère de l'agneau. Donc, l'apôtre Paul le comprend. Il comprend que cet être glorifié avec les yeux comme une flamme de feu et une épée à deux tranchants, c'est ça qu'il attend. L'apôtre Paul dit à l'église, à la congrégation, de livrer cet homme, cette personne à Satan pour la destruction de la chair, que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et cette Pâque, ne savez-vous pas qu'un peu de levain nourrit toute la Pâque? Faites disparaître le vieux levain. Et verset 7, on lit le verset 7 et on change au niveau individuel. Mais alors il faut que j'enlève le levain de ma vie. Mais l'apôtre parle à la congrégation. Faites disparaître le vieux levain. Enlevez cette personne de la congrégation. Faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain. Ah oui, le vieux serpent. Afin que vous soyez une pâte, comme congrégation, une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Mais il veut qu'il soit une nouvelle pâte. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Cette deuxième Pâque qui vient, et nous allons rencontrer la colère de l'agneau. Au verset 8, il dit, Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Nous devons réussir. La troisième catégorie, la finale, se trouve de levain que nous devons enlever de notre congrégation. D'abord, nous avons les fausses doctrines. On ne peut pas les tolérer. Satan essaie d'influencer nos comportements par les fausses doctrines. Pourquoi? Parce que la fausse doctrine mène à un mauvais comportement. Deuxième catégorie, c'est la... Comment? L'impudicité sexuelle. Le comportement mène à la troisième catégorie. C'est le découragement. Une fois que nous nous engageons dans un comportement méchant, nous devons être hypocrites et indifférents. Et nous devons être tièdes. Hébreux 12. Jésus nous avertit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Nous parlons de faux prophètes, nous pensons à des personnes, des orateurs qui vont séduire. Mais Christ avertit l'Église, la congrégation, il y aurait des faux prophètes dans l'Église. Et que le but de c'est pour nous décourager, pour nous amener dans des faux comportements, pour désobéir au commandement de Dieu. Et quand ils font ça, nous on devient découragé. Mais Dieu va agir pour nous encourager. Hébreux 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Quand nous péchons, Christ va nous reprendre. Pas parce qu'il nous déteste, mais parce qu'il nous aime. Mais on peut être découragé. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Supporte les châtiments. C'est comme les fils de Dieu qui vous traitent. C'est quand le fils... Nous avons... Nous devons être sujetés au Père éternel. Car, d'ailleurs, mais Dieu le Père nous châtie pour que nous puissions partager sa gloire. Aucun châtiment pour le présent est joyeux, mais triste, mais difficile. Dieu agit dans nos vies pour nous corriger. Ça va être difficile, mais après, ça donne le fruit de la justice. Le fruit paisible de la justice. Qu'il souffre pour qu'il puisse repentir et comprendre qu'il fait partie d'une congrégation et de revenir. Ça va être douloureux, mais c'est de l'exercer pour, à la verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Donc ne vous découragez pas. Oublions des choses du passé et en regardant de l'avenir. Voici ce que nous devons faire. Les péchés du passé sont pardonnés. Nous sommes appelés à la gloire et nous devons regarder cette gloire et suivre avec vos pieds des voies droites. Soyons droits avec eux, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Verset 15, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Et c'est ça que Satan veut, que nous ayons de l'amertume entre nous, et que nous devons foi, et qu'on tient de l'amertume contre quelqu'un. C'est plus facile quand nous avons des péchés dans nos vies, et ainsi que plusieurs soient troublés, et que à ce qu'il est l'impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mévent dit son droit d'aînesse. Donc Ésaü a perdu sa droit d'aînesse pour un pot de nourriture. Jésus-Christ nous fait comprendre la récompense des saints et que nous n'allons pas vendre notre droit d'aînesse pour un bol de soupe. Il n'y a rien que Satan peut nous offrir. Il n'y a rien, rien. Même s'il nous offre tout le monde, tout ce qu'il a, c'est rien. C'est rien en comparaison avec ce que Jésus-Christ nous donne. Et nous devons avoir cette vision qui vient de l'Apocalypse. Et verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoique la sollicite, et avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet, vous ne vous êtes... Soyons clairs, mes frères, que Dieu veut que nous soyons encouragés, que nous soyons forts, que nous soulevions les mains qui sont languissantes et qui nous en fassons des sentiers droits pour nos pieds. Regardez Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité. C'est un commandement. Et c'est comme ça qu'on se fortifie. Nous marchons dans la charité. Nous sommes dans l'amour. Nous ne sommes pas les personnes que nous étions dans le passé. Nous sommes plus motivés par l'amour et plus que nous obéissons à ce commandement de nous aimer les uns les autres. Le moins de pouvoir que les démons ont sur nous et marcher dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés. Il cite Jésus-Christ ici dans Jean et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous devons marcher comme l'exemple du Christ. Comment? Il s'est donné lui-même pour nous. Nous devons être prêts à nous donner nous-mêmes pour les uns les autres. Que l'impudicité et qu'aucune espèce d'impureté et de la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, et qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucune impudique ou impure, quelqu'un qui aime l'impudique sexuelle ou impure ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, qui n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est très clair. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car ils vont nous faire croire que c'est correct, mais ce n'est pas le cas. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous voulons que la colère de Dieu passe par-dessus, mais que la colère de Dieu vient contre nous. N'ayez aucune part avec eux. En terminant, Malachie 3. Malachie chapitre 3 et le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant vous, moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? La même question que les méchants demandent dans Apocalypse 6. Qui demeure debout quand il paraîtra? Est-ce que quelqu'un peut? Non. Car il sera comme le feu du fondeur, comme les sept astronautes devaient passer par le feu. Ils étaient consumés par le feu. La différence entre eux et les sept congrégations, c'est que au lieu d'être consumés, le feu purifie les sept congrégations. Il dit, car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Et il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Et il purifiera comme on pure l'or et l'argent qui se présentent à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors nous devons traverser ce feu. Si nous nous aimons les uns les autres, ce feu va nous purifier. Alors terminons avec Apocalypse chapitre 22. Chapitre 22, Apocalypse. Regardez les versets 6, chapitre 22. Nous sommes à la fin du livre de l'Apocalypse. Qui, Jésus a dit, il inspire Jean à dire, béni est celui qui lit et qui entend les paroles de ce livre et qui garde les choses qui sont écrites dedans, car le temps est maintenant. C'est dans les verbes, sont dans le présent actuel, qui écoute, qui lit et qui entend, qui lise et qui continue à lire, qui entend et continue à lire. En autre mot, l'Église devrait être très intimement familier avec le contenu de ce livre. Apocalypse chapitre 14. Vous devez savoir tout de suite ce qu'il y a là-dedans. Apocalypse chapitre 11, savoir tout de suite ce qu'il y a là-dedans. Nous devons être familiers parce qu'on lit la Bible et nous gardons les instructions dans la Bible. Parce que c'est la lentille par laquelle nous devons voir. Nous devons interpréter le monde par la lentille de la Bible. Si nous ne l'avons pas, Satan peut nous tromper, peut nous séduire. Nous pouvons être attrapés par ces mouvements de justice sociale. Oui, on devrait supporter ça. Mais c'est faux. Il diminue la force du corps de Christ. Si nous comprenons l'Apocalypse, non, c'est tout. C'est ça. C'est clair. Ça nous aide à obéir au Christ. Verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de déceptions autour de nous dans le monde. Le chasseur sur le cheval blanc galope à travers le monde et le monde est confus, est trompé, est séduit. Ces paroles sont certaines et véritables. C'est un don de Jésus-Christ, le livre de l'Apocalypse, pour que nous puissions savoir comment comprendre le monde autour de nous. C'est la réalité. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. En lisant ce livre, nous pouvons comprendre le monde autour de nous, où les choses mènent. Pourquoi il y a toute cette violence sur la terre et la nouvelle fake? Nous lisons la Bible et nous comprenons tout de suite. C'est exactement ce qui est prédit par la Bible. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie et de ce livre. En autre mot, vérifiez toutes les parties. On se prépare à lancer. Parce que nous devons lancer dans une température refroidie à un tel point qu'on n'a jamais fait ça. C'est T moins 10, moins 9, moins 2, moins 8, moins 7, 6, le verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. On est rendu, on est presque prêt à lancer. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Tu Dieu, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. On est presque là. Et ma rétribution est avec moi, et pour rendre à chacun selon ses œuvres. De donner à chacun selon son œuvre. Je suis à l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'apôtre Paul dit à Corinthe que les membres du corps que nous trouvons sont moins beaux, sont nécessaires. Qui croirait que la personne la plus sophistiquée et la machinerie la plus sophistiquée à ce point-là pourrait échouer à cause d'un seul petit problème, d'une jointure? Donc les membres de l'Église qui nous paraissent peuvent être essentiels au succès de l'Église. Qui sait combien puissants sont leurs prières dans leur... quoi qu'ils paraissent faibles peut-être. Nous devons penser de la congrégation et nous garder les uns les autres et penser à nous enlever le levain dans la congrégation. Comment est-ce qu'on peut se renforcer? Car 3, 2, 1. Et nous avons un lancement des 7 congrégations de l'Église de Dieu. Regardez verset 14. Heureux ceux qui lavent les robes, leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Nous devons briser les liens de la terre pour nous rejoindre à Christ. Et d'entrer par les portes de l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Nous avons le lancement des 7 congrégations qui sont symboles de toute l'Église de Dieu. Roger, Rowan, allez. Les églises commencent à partir. Alors maintenant les moteurs, tout le fonctionnement est normal. La vérité est la distance. Hop, on monte. Les moteurs montent. Église, allez, montez. Oui, Seigneur. Pleine altitude. Amen.